qui pourra vivre en premier lieu la béatitude. C'est notre âme spirituelle, transformée par la grâce. Pour notre corps, ce n'est que le rejaillissement. Alors, comme ce n'est que le rejaillissement, notre corps passe après le prochain. Vous voyez cette chose très curieuse. Donc, dans le moi, faisons bien la distinction. Notre moi profond, sanctifié par la grâce, c'est celui-là que nous devons aimer. Et puis notre moi, lié à tout notre égoïsme. Notre égoïsme, c'est notre moi sensible, c'est lié à notre corps. Bien saisi. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que s'aimer plus que le prochain, c'est aimer en nous ce que Dieu aime, en premier lieu. Et aimer le prochain plus que notre propre corps, c'est comprendre justement que le prochain est appelé à la béatitude, à la même béatitude que moi, à cette béatitude dans son âme spirituelle, et par le fait même, je dois aimer son salut, sa béatitude, plus que mon propre corps, plus que ma propre santé. Ça explique l'héroïsme, je crois, constant des saints et de la charité fraternelle. Oui. Vous, j'en peux distinguer. Je suis tout à fait d'accord, mais ça va devenir très. Parmi le prochain, y a-t-il. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Alors, comment vous concluez? Venez. Comment vous concluez? Donc vous allez conclure comme ça, n'est-ce pas? Je vois très bien, n'est-ce pas, la conclusion. J'aime mon âme, premier lieu, donc. Il y a Dieu, premier lieu. Mon âme en second lieu. L'âme du prochain en troisième lieu. Mon corps en quatrième. Et le prochain en cinquième position. Vous êtes d'accord? Alors, vous voyez, là, on ne donne plus de préceptes. Tandis que là, on peut théologiquement. Tandis que l'autre, on ne peut pas. Je crois que par rapport à mon propre corps, dans certaines circonstances, je devrais sauver le corps. C'est exactement l'attitude du père Kolb. Il a offert sa vie pour sauver la vie temporelle de ce père de famille. Donc, dans la charité fraternelle, il a offert son propre corps pour la vie de l'autre. Donc, il avait passé le corps de l'autre. Là, il n'y a plus d'ordo caritatis. Oui, c'est brouillé. Dans certaines circonstances, vous devrez aller jusqu'au bout en usant votre santé pour sauver l'autre, même dans sa propre santé. Et on le sent bien, ça, hein, dans certaines circonstances. C'est ce que nous faisons. On sue jusqu'à la corde, quoi, dans la charité. Oui, parce que c'est très difficile dans le prochain de dire, écoutez, je t'aime beaucoup dans ton salut, mais dans ton corps, oh, je peux faire ce discernement pour moi, mais pas pour le prochain. C'est très curieux. C'est très très curieux ça. J'aime le prochain, parce que c'est impossible de dire ça, vous voyez. De dire au prochain, j'aime ton salut, c'est bien évident que c'est ton salut que je cherche. On peut le dire, mais en même temps, on l'aime dans sa totalité. Mais pour moi, je peux le faire. On peut discerner assez facilement ce que représente le point de vue de dire, dans telle circonstance, je ne peux pas, ce sera... Non, c'est impossible. Je ne peux pas au point de vue de mon salut. Vous voyez? Au point de vue de mon propre... Je suis obligé de faire attention. Je sais que je suis faible, je suis fragile. Alors je ferai attention, oui. Tandis qu'au point de vue du corps, c'est différent, très bien. C'est vrai, j'attrape facilement les virus. Ben, je sais bien qu'en me mettant dans telle circonstance, je vais attraper le virus. Tant pis, après tout. Alors je prends ta place, puis toi tu rentres pas, venez. Et j'attrape le virus. Alors c'est possible, c'est très possible qu'on doit offrir sa propre santé pour sauver quelqu'un d'autre. Ah, ça, je crois. Mais alors là, vous voyez, il y a une question de prudence, il n'y a plus d'ordo caritatis au sens objectif. Parce qu'on est en face d'une possibilité d'offrir sa vie pour l'autre. Parmi le prochain, y a-t-il telle personne que nous devions aimer plus que telle autre? Ça, c'est très très important, les préférences, hein, vous comprenez. Extraordinaire de voir les préférences. L'égalité dans l'amour, hein. Alors, les préférences dans l'amour. Cependant, quelqu'un doit être d'autant plus aimé que celui qui agit contrairement à cet amour pêche plus gravement. Or, c'est un péché plus grave d'agir contrairement à l'amour de certaines personnes que d'agir contrairement à l'amour de certaines autres. De là ce précepte du Lévitique, « Quiconque maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Ce n'est pas prescrit pour ceux qui maudissent d'autres personnes. Ça va. Par conséquent, il est telle personne parmi notre prochain que nous devons aimer plus que tel autre. Il y a un ordo caritatis qui va jusqu'à l'ordre du prochain, qui fait que telle personne doit être aimée plus que telle autre. Donc ça, c'est simplement l'affirmation de l'existence qui a des préférences. Et on le prend négativement, vous voyez, parce que c'est plus clair. La malédiction est plus facile à saisir. Alors, voici le raisonnement. Il y a deux opinions à ce sujet. Certains, en effet, ont dit que tous ceux qui constituent le prochain doivent être aimés également. Quant aux sentiments d'affection, mais pas quant aux effets extérieurs. Et cela parce que, d'après eux, l'ordre de la charité se mesure aux bienfaits extérieurs que nous devons procurer à nos proches, plutôt qu'aux étrangers, et non à l'affection intérieure que nous devons égale à tous, même à nos ennemis. Mais cette opinion n'est point fondée. En effet, l'affection de la charité, qui est une inclination de la grâce, n'est pas moins bien ordonnée que l'appétit naturel, qui est une inclination de la nature, car l'une et l'autre de ces inclinations procèdent de la sagesse divine. Or, nous voyons que dans les choses naturelles, l'inclination de la nature est proportionnée à l'acte ou au mouvement qui convient à la nature de chaque être. Ainsi, la terre a-t-elle une plus forte inclination à la pesanteur que l'eau ? Alors ça, c'est toujours les exemples des anciens, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il est, dans sa nature d'être, au-dessous de l'eau. Il faut donc, pesanteur, il faut donc que l'inclination de la grâce, qui est l'affection de la charité, soit aussi proportionnée aux actes qui doivent être produits à l'extérieur, de telle sorte que nous ayons des sentiments de charité plus intenses pour ceux à l'égard desquels il convient que nous soyons plus bienfaisants. Ainsi donc, il faut conclure que même sous le rapport de l'affection, il convient qu'il y ait des inégalités dans notre amour du prochain. Et en voici la raison. Dieu est celui qui aime étant les principes de l'amour. Il est nécessaire qu'il y ait un plus grand sentiment de dilection selon que celui qui en est l'objet est plus rapproché de l'un de ces deux principes. Partout, en effet, où il y a principe, l'ordre se mesure par rapport à ce principe, ainsi qu'il a été dit. Donc vous voyez ce que saint Thomas veut dire ici. La première opinion, qui consiste à dire, nous devons tous intérieurement aimer tout le monde de la même façon. Être catholique, c'est aimer tout le monde et c'est n'exclure personne. Donc, on aime tout le monde de la même manière. Mais cependant, étant donné notre situation particulière, nous ne pouvons pas exercer les mêmes œuvres de charité à l'égard de gens qui sont très loin qu'à l'égard de gens qui sont tout proches. Donc, au point de vue des œuvres de charité extérieures, on doit nécessairement respecter l'ordre de proximité, ou l'ordre d'intensité, l'ordre particulier, vis-à-vis de personnes qui sont de fait, qui attendent plus de nous que d'autres. Saint Thomas n'aime pas ça. Et on comprend très bien, vous voyez, parce qu'il y aurait une désharmonie entre l'intérieur et l'extérieur. C'est vrai. Donc nos gestes extérieurs ne traduiraient pas exactement. Remarquez qu'il faut faire attention, nos gestes extérieurs ne traduisent pas toujours la même intensité d'amour. C'est sûr. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est malade, vous devez l'aider le plus que vous pouvez, matériellement. C'est pas à cause de ça que dans la charité surnaturelle, vous avez pour lui un amour beaucoup plus grand que pour quelqu'un d'autre. Non. C'est parce que de fait, il n'a plus besoin de vous. Oui. Mais saint Thomas reconnaît qu'il y a à l'intérieur même de notre affection, secundum affectum, selon l'affectum, il y a donc selon l'intention intérieure du cœur. Il n'y a pas égalité pour tout le monde. L'égalité comme telle, ce que je vous disais ce matin, l'égalité comme telle n'affecte pas l'amour. L'égalité affecte la quantité. L'amour implique des proportions, des similitudes, mais pas le point de vue de l'égalité. Et alors, dans la charité, dans la charité surnaturelle, il est sûr qu'il y a des inégalités. Dieu est celui qui aime étant les principes de l'amour, il est nécessaire qu'il y ait un plus grand sentiment de dilection selon que celui qui en est l'objet est plus rapproché de celui de ces deux principes. Donc, il y a une double proximité. C'est ça qu'il faut essayer de saisir. Une double proximité que saint Thomas souligne là. Puisque dans un acte de charité à l'égard du prochain, il y a Dieu et moi. Tous les deux sont principes, tous les deux sont source. J'aime Dieu, Dieu m'aime, et ensemble nous aimons le prochain. Nous aimons tous les hommes. C'est ça la charité, c'est d'aimer tous les hommes. On n'exclut personne. Donc du côté de l'exclusion, vous n'avez pas le droit d'exclure. Hein? Absolument pas. Vous n'excluez personne parce qu'il faut même aimer ses ennemis. Donc on aime tout le monde, on aime tous les hommes. Mais du côté de l'ordre de la charité, c'est-à-dire de l'intensité et des actes extérieurs, parce qu'on regarde les deux, du côté de l'intensité et des actes extérieurs, saint Thomas maintient qu'il y a un ordre. Donc, qu'il n'y a pas égalité. S'il y avait égalité, il n'y aurait pas d'ordre. Et le principe qui est donné est très simple, puisqu'il y a deux principes, il faut aimer avec une intensité plus grande ceux qui sont le plus proches de ces deux principes. Donc, j'aime avec une intensité plus grande ceux qui sont plus proches de Dieu. Dans la mesure où je peux le savoir. J'aime avec une intensité plus proche ceux qui sont plus proches de moi. Oui, la double proximité. Alors évidemment, à l'intérieur de cette double proximité, je peux encore établir un ordre. C'est d'abord ceux qui sont proches de Dieu. C'est sûr. Et ensuite, ceux qui sont proches de moi.
On a un petit peu l'impression que pour Jésus, l'amour que porte Jésus pour les hommes est presque inverse. Enfin, l'intensité de son amour est plus grande pour les pécheurs, donc pour ceux qui sont...
Non, là pour Marie.
Oui, mais...
Pour Marie, je ne crois pas. Je crois que les gestes du Christ pour les pécheurs, c'est très très mystérieux ça. Les gestes du Christ... Quand vous regardez dans saint Jean, les premiers gestes du Christ, c'est pour Israël, et ensuite pour les autres. Il y a une proximité plus grande, immédiate. Oui. Et il y a une proximité plus grande à l'égard de ceux qui sont les plus autant que possible. Alors pour Marie, c'est flagrant, c'est net. Oui. Alors il y a les deux extrêmes, c'est évident, parce qu'au fond, vous voyez, il y a le principe de la charité, c'est tout le point de vue de la charité, la miséricorde. Vous voyez, c'est très vrai que la miséricorde s'exercera en premier lieu vis-à-vis des pécheurs, ceux qui auront le plus besoin. Vous voyez, mais la charité comme telle, il implique ce double ordre de charité. Le double ordre de charité, la proximité à l'égard de celui, c'est-à-dire de Dieu, de Jésus, enfin, c'est Jésus pour nous. Et puis, et c'est vrai que dans notre vie, nous sentons bien ça, que de fait, il y a toujours, au point de vue prière, par exemple, nous devons prier plus pour ceux que nous sentons plus proches de Dieu, et que nous, que pour une raison ou pour une autre, la providence habite tout proche de nous. Parce que vous voyez, prier d'une façon abstraite pour celui qui est le plus grand saint dans le monde d'aujourd'hui, moi, je ne sais pas, ça ne m'arrive pas très souvent de prier pour ça. Tandis qu'on prie, ça lui arrive, ça peut arriver, c'est possible, c'est possible. Mais tandis qu'on prie avec une intensité, on prie avec une intensité plus grande vis-à-vis de telle ou telle personne que nous avons senti plus proche de Dieu, senti autant qu'on peut sentir. Oui. Alors, on priait plus parce qu'on sentait très bien qu'il y avait cette proximité à l'égard de Dieu. Et alors on sentait qu'il y avait donc un ordre plus un, il y avait une intensité plus grande, même si elle était très sainte et que d'une certaine manière elle n'avait pas besoin de notre prière. Mais plus on est saint, plus on a besoin de la prière des autres. Parce que plus... Et c'était même vrai pour Marie. Marie avait plus besoin de la prière de Jésus qu'un pécheur. Quoi ? Mais parce que plus on est saint, plus on est, ce qu'on disait ce matin, plus on est vulnérable. Plus l'amour est grand en nous, plus c'est périlleux. C'est pour ça qu'on doit prier pour les contemplatifs. Et pour les contemplatifs, on dit, elles sont assez saintes. Pas du tout. On doit prier plus. Et selon un ordo caritatis, normalement notre prière doit être plus intense pour les contemplatifs et les contemplatives que pour les pécheurs. Selon la dogmatique plus proche de Dieu. Ça vous scandalise.
Enfin, il y en a qui sont sauvés, tandis que les pécheurs...
Qu'est-ce qu'il y a?
Les saints, enfin, ils sont sauvés parce qu'ils sont saints, et les pécheurs...
Ils sont... Oui, mais plus ils sont saints, plus ils sauveront aussi. Il ne faut pas l'oublier. Plus ils sont saints, plus ils seront source de salut pour les autres. Et c'est pour ça que vous priez pour eux, intensément. C'est un ordre, c'est ça qui est très curieux, vous voyez, c'est très... Mais il me semble que dans au point de vue profond, nous ressentons bien cela au point de vue prière. Nous prions plus pour les plus grands saints que nous avons rencontrés. On sent qu'on doit prier davantage pour eux, parce qu'ils sont plus en péril que d'autres. Ils subissent des combats bien plus grands. Et puis nous prions pour les plus grands pécheurs, c'est bien évident. Oui. Et puis nous prions pour ceux qui sont proches de nous. Oui. Alors, faisons attention, c'est l'ordo caritatis. Vous voyez, la miséricorde, vous allez dire, alors l'ordre de la miséricorde et de la charité sont les mêmes. Oui, c'est très vrai, parce que la miséricorde, c'est la surabondance de l'amour. Mais il y a quand même autre chose. Oui. Ici, je suis au niveau propre. J'allais dire de la prière contemplative, au niveau propre de la charité, comme telle. C'est le propre de la charité, ça. Et puis alors, il y a le point de vue apostolique, il y a le point de vue de la miséricorde, qui est autre chose, et dans la miséricorde, alors on comprendra qu'il y a des nécessités immédiates qui exigent de nous quelque chose de plus proche. Oui.
Est-ce qu'on peut prier pour les contemplatifs parce qu'ils sont plus proches de Dieu ou parce qu'ils ont des combats plus...
On prie. Le motif, c'est parce qu'ils sont plus proches de Dieu. Et nous comprenons très bien que Dieu nous demande de prier pas parce qu'ils ont des combats. Non, mais il ne s'est pas opposé. Mais c'est la proximité à l'égard de Dieu qui est le motif propre de notre amour et de l'intensité de notre amour. C'est le motif propre. Et selon ce motif qu'on a vu, toujours, ce principe qui est toujours là sous-jacent, vous voyez, qui est toujours là sous-jacent, c'est la participation de la bonté de Dieu. C'est que notre charité nous lie dans un amour d'amitié. Vous voyez, c'est cette grande raison de l'amour d'amitié. C'est que dans l'amour d'amitié, on est lié intensément à l'ami et on épouse tous les sentiments de son ami. Idem velle. Et donc on entre pleinement et totalement dans ce mystère de l'ordre de la sagesse de Dieu. Et je crois que c'est ça qui nous est montré progressivement. Oui. Oui.
Juste une petite question. Maintenant, je suis encore un peu gêné sur cet ordre.
Mais oui, je comprends. Mais ça
paraît un petit peu, je sais pas, contradictoire avec le fait, par exemple, que l'Esprit Saint est inspiré dans l'Église, la création d'ordres religieux qui sont voués totalement à la prière pour sauver les âmes pécheresses, par exemple.
Mais non, c'est pas contradictoire. Non. Nous ne devons pas de contradiction. Nous ne devons pas du tout de contradiction.
Par exemple, les auxiliatrices. Oui.
C'est normal qu'après les hommes du purgatoire doivent tous prier et qu'il y ait dans l'Église diversification. C'est autre chose. Voyez, là, vous prenez des applications particulières, mais les applications particulières ne vont pas contre cela. Ça, c'est la vision profonde, universelle de l'Église. Vous voyez ? Il est bien évident que l'Église nous demande d'avoir un soin particulier vis-à-vis des ordres contemplatifs.
Et l'Esprit Saint peut inspirer de donner sa vie, en fait, pour une cause seconde, en fait.
Ben oui, c'est sûr. C'est constamment comme ça. Parce que du côté de l'exercice de la miséricorde, on ne peut pas tout faire. Vous voyez, il y a deux choses différentes, hein, pour moi. C'est pour ça que je dis, attention, quand on regarde le point de vue de la miséricorde et le point de vue de la charité, nous ne sommes pas ici au niveau de la miséricorde, on est au niveau de la charité. Alors, il n'y a pas de contradiction entre les deux, mais la miséricorde, ce sont les gestes que nous voyons, et l'Esprit Saint peut nous demander, en fonction de cette nécessité immédiate, d'être là attaché à ça. Ça, c'est sûr, il n'y a pas celui qui est constamment comme ça. Vous voyez ? Mais au niveau de l'ordo caritatis, donc de l'ordre de la charité au-dedans de nous-mêmes, alors l'Esprit Saint nous demande toujours, et je crois, vous voyez, c'est peut-être ça qui est important à souligner, c'est que la tentation, c'est qu'on est plus pris par l'immédiat. Et alors, au bout d'un certain temps, on ne verrait plus. Vous voyez ? Je me souviens très bien, moi, c'était quelque chose d'or tout à fait particulier, mais personnel, mais qui m'a beaucoup éclairé. C'était l'abbé Godin, qui était consacré entièrement à la classe ouvrière, et quand il a commencé d'être prêtre ouvrier, il venait régulièrement au seul soir, tous les mois, je le voyais une heure, il me sortait son petit carnet, et il me disait, voilà, dans telle circonstance, voilà comment j'ai fait, qu'est-ce que vous auriez fait ? Et il me disait, j'ai toujours besoin de ça, parce que vous comprenez, je suis dans la misère immédiate. Je risque de ne plus voir avec suffisamment de netteté. Et moi, je crois que c'est ça qui fait que si on ne garde pas un regard, un recul contemplatif suffisamment, le point de vue de l'immédiat nous prendra plus. Et à ce moment-là, on n'aura plus, j'allais dire, un regard suffisamment divin. On aura le regard de l'immédiat. Parce que c'est ça qui est évident, qui nous touche le plus. Quand on est en face d'une misère là, qui est constante, mais on se dit, il faut y aller tout près. Et c'est vrai au point de vue de la miséricorde. Je suis tout à fait d'accord au point de vue de la miséricorde. La misère qui est là, elle exige, hein, d'aller tout de suite. Et pas à ce moment-là, je l'ai prié pour un saint qui est dans son monde. Non, c'est la miséricorde qui exige tout de suite. Vous voyez ? Et elle exige ça, et je comprends très bien que l'Esprit Saint dans l'Église est donné. Mais cela n'empêche absolument pas qu'au point de vue ordo caritatis, donc façon profonde, voyez, ce soit comme ça. Et que celui, le saint qui est pris par cet immédiat de ses services, ses œuvres caritatives qui sont immédiates, ce saint devra, lui, toujours comprendre la nécessité de se remettre docilement au Saint-Esprit pour comprendre cet ordo caritatis, cet ordre de l'amour. Je crois qu'il y a ce double mouvement constant. Oui. Le double mouvement d'une miséricorde immédiate qui est nécessaire, qui s'impose à nous, et puis de cette attitude intérieure plus profonde. Bon. On arrête quelques minutes, bien. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut me dire.
On arrête 5 minutes.
13 mars 1983, deuxième conférence.
Alors, une petite question. Plusieurs fois dans diverses apparitions, la Vierge Marie a dit « Sacrifiez-vous pour moi ». Est-ce que cette parole peut être éclairée par ce que vous dites sur l'ordo caritatis ? Pas commode à comprendre une parole comme ça. Sacrifiez-vous pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sacrifiez-vous pour moi. C'est-à-dire, au fond, essayez de m'aimer d'une manière telle que vous puissiez entièrement faire ce que je vous demande. Sacrifiez-vous pour moi. C'est pas, vous voyez, c'est pas pour la sainteté de la Sainte Vierge, mais c'est pour que, de fait, la Sainte Vierge puisse se servir de nous comme elle le veut. Enfin, je crois que c'est ça que ça veut dire. Sacrifiez-vous pour moi. Que nous soyons pleinement et totalement ses enfants. Je ne crois pas qu'on puisse prendre une autre signification. Comme on dit à quelqu'un, mais sacrifiez-vous pour moi, mais oui, acceptez tout ce que je vous demande. Allez-y, je vous affirme, ce que je vous demande, c'est bien de la part de Dieu. Alors sacrifiez-vous pour moi. Acceptez ça. Que l'amour que nous avons pour Marie, l'amour que nous avons pour Jésus, soit tel que nous soyons capables de tout offrir, tout donner. Vous voyez ? Alors c'est évidemment nous mettre en docilité vis-à-vis de l'ordo caritatis. Il faut bien faire attention, hein, parce que c'est toujours la même question. La question de la théologie spéculative, scientifique, nous donne un ordre objectif, mais elle ne nous dicte pas ce que nous devons faire. Ce serait désastreux de prendre les conclusions de saint Thomas comme règle de vie. C'est pas ça. Ça nous éclaire au point du enseignement, et la règle de vie vient de l'Esprit Saint sur nous et de l'enseignement actuel de l'Église, comme toujours. C'est pour nous aider, pour enlever les obstacles, enlever tout ce qu'il peut y avoir en nous d'imaginaire ou de trop subjectif. C'est pour ça que ça nous est donné, c'est une purge, hein, je vous l'ai dit. Mais ce n'est pas les conclusions de saint Thomas qui sont la règle. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit, et pour être sûr que c'est l'Esprit Saint qui nous conduit, nous demandons conseil à ceux qui sont pour nous les instruments de Dieu et qui rectifient, confirment ou au contraire infirment ce que l'Esprit Saint peut nous dire. Parce que nous ne savons jamais très bien si c'est de l'Esprit Saint. Hein, c'est très difficile. Si on est trop sûr, ça risque d'être l'illuminisme. La seule chose dont nous savons absolument sûr, c'est que nous n'avons qu'un seul désir, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est ça la béatitude des cœurs purs. Ça, on peut en être certain. Et il faut en être certain, parce que c'est ça la sainteté. Donc il faut arriver à avoir ce désir de ne faire que la volonté du Père. Bon, l'Esprit Saint souffle. Il nous conduit par le bout du nez. C'est bien évident. Et dans la mesure où nous lui demandons, il nous conduit. Mais nous ne sommes jamais absolument sûrs, dès que nous traduisons cela dans notre vie, que c'est bien cela. Alors nous demandons conseil à ceux qui sont pour nous les instruments de Dieu. Si ces instruments de Dieu nous disent « Attention, faites attention », à ce moment-là, on fera attention. S'ils disent « Allez-y, allez-y, très bien, on y va ». Vous voyez, c'est au fond là l'instrument de Dieu qui joue un rôle particulier de confirmer ou au contraire de dire « Attention, Faites attention, c'est peut-être votre point de vue qui revient tout le temps. Alors on tombe dans une ornière, et dès qu'il y a l'imaginaire, l'amour ne peut plus être aussi pur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'amour ne peut plus être aussi pur, n'a plus avoir autant d'intensité d'amour. Mais c'est bien évident, hein, que ce que nous dit saint Thomas, les conclusions de la théologie scientifique, ne sont pas la norme de notre vie. Le père Garrigou Lagrange disait les conclusions scientifiques de saint Thomas, il suffit de les appliquer, et on a la théologie mystique. Ça, c'est pas vrai. C'était les raisons scolastiques. La théologie scientifique de saint Thomas n'est pas pratique. Il faut nous aider cela pour purifier notre regard. Nous revenons au Christ. C'est le Christ qui est le modèle. C'est le Christ qui nous est donné. Et c'est lui qui nous éclaire d'une façon pratique, sous le souffle de l'Esprit Saint. Et nous demandons conseil à ceux qui sont proches de nous pour nous aider. Vous voyez, quand il s'agit de la prière intérieure, ordinairement, on suit ce que le Saint-Esprit nous fait prier. Quand il nous fait prier intensément pour tel ou tel, on comprend très bien. Il y a une intention de prière qui nous est donnée, on se met à prier, ou bien quand on sait telle ou telle chose. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça. Et nous prions à toutes les intentions de Jésus. Nous entrons dans la grande prière sacerdotale de Jésus et à toutes les intentions de Jésus. Je croyais que la miséricorde était ce qui caractérisait le plus l'amour de Dieu à notre égard. Or, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, la miséricorde apparaissait comme secondaire. Ah non, elle n'est pas secondaire, elle est essentielle. Si c'est ça que ça a apparu, je regrette. Ce n'est pas ça du tout que je voulais dire. Je voulais dire que c'était une application. Ce n'est pas la même vertu, hein. Il y a deux vertus. Il y a l'agapé, la charité, et la miséricorde. Il faut quand même bien voir les deux, hein. La miséricorde regarde le prochain, la miséricorde ne regarde pas Dieu, vous n'êtes pas miséricordieux à l'égard de Dieu. Et la source de la miséricorde, c'est l'agapé. Il faut donc les distinguer. La vertu de charité est une vertu théologale, la miséricorde n'est pas une vertu théologale. Donc, à ce point de vue-là, elle est secondaire par rapport aux vertus théologales, vous voyez bien. La vertu théologale passe avant, toutes les vertus morales sont hors de nos vertus théologales. Sont ordonnées. Donc elles sont toutes relativisées aux vertus théologales de foi, d'espérance et d'amour. Vous voyez ? Et c'est ce que l'exemple que je vous donnais, c'est l'apôtre qui est toujours un peu dans la miséricorde, il doit toujours faire attention de ne pas se laisser emporter par la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est visible, c'est sensible, c'est quelque chose qui m'appelle immédiatement. Alors j'ai besoin de reprendre l'ordre des vertus théologales dans toute sa force. La miséricorde, c'est la plus grande des vertus morales. C'est sûr, c'est la plus grande des vertus morales. Donc elle commande toutes les vertus morales. Mais elle n'est pas une vertu théologale. Donc elle est subordonnée aux vertus théologales. Elle est ordonnée aux vertus théologales. Oui, et alors, l'Église, dans l'Église visible, on comprend très bien comment l'Esprit Saint suscite des charismes, des hommes de charisme, de miséricorde, pour que dans l'Église, toutes les œuvres de miséricorde soient toujours vécues. Toutes les modalités de la miséricorde soient vécues. Mais c'est toujours ordonné à quelque chose de plus intérieur, qui est la vie intérieure, qui est la vie contemplative. Je continue. Même les saints restent des pécheurs et vivent donc de la miséricorde. C'est évident. Tous nous vivons de la miséricorde. Mais la miséricorde nous fait vivre de l'amour. Comprenez bien. Le pardon que vous recevez, c'est pour vivre de l'amour. C'est pour vivre de l'agapé. Votre lien avec Jésus, c'est un lien avant tout d'amour. Vous voyez ? Et la miséricorde nous enveloppe, c'est évident qu'on vit de la miséricorde, on est plongé dans la miséricorde, plongé dans le sang du Christ, qui nous pardonne. Mais ce pardon est ordonné à un lien d'amour. À la limite, j'ai cru comprendre que les saints vivaient de la pure charité et les pécheurs de la miséricorde. Ah non, ça c'est un peu gros, durci, ad modum recipientis, n'est-ce pas? Donc c'est pas tout à fait ça. Les saints, aussi bien que les autres, vivent de la miséricorde, mais les saints vivent de l'amour, c'est bien évident. Et il n'y aurait pas de sainteté si on ne vivait pas de l'amour. Que les pécheurs vivent en premier lieu de la miséricorde, c'est bien évident. Mais les pécheurs doivent vivre de l'amour, dans la mesure où justement ils se convertissent. Vous voyez ? Donc c'est cette remontée constante, enfin c'est tout le temps le passage, si vous voulez, de ce que représente la miséricorde et l'amour. Hein. On ne reste pas dans la miséricorde, mais de la miséricorde, on passe à l'amour. Parce que l'amour est source de toute miséricorde. Pourriez-vous réexpliquer rapidement ? Je le fais. Dieu n'aime pas de manière différente de charité. C'est évident du côté de Dieu. En Dieu, il n'y a pas la vertu de miséricorde. Dieu est miséricorde. Et saint Thomas dit que c'est l'attribut par excellence de Dieu. La miséricorde, c'est sûr. Parce que c'est la surabondance de l'amour. Alors, du côté de Dieu, c'est la surabondance de l'amour. C'est sûr. C'est la surabondance de l'amour. Mais Dieu est amour. Vous voyez ? Bon, vous dites aussi il est miséricorde parce que ça fait partie. Mais il est amour, en ce sens que c'est l'amour qui est source de sa miséricorde. Entre les personnes divines, il n'y a pas de miséricorde. Entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une contemplation d'amour et de lumière. Vous voyez ? Et la miséricorde, c'est par rapport aux créatures. Et nous, nous sommes appelés à vivre en enfant de Dieu et à vivre du mystère même de Dieu. Le mystère même de Dieu, c'est l'amour. Et c'est vécu dans la charité. Alors, je crois que c'est très important. Alors, comprenez bien, le langage trahit toujours. Alors, comprenons, nous parlons de la charité, je ne parle pas de la miséricorde. Nous parlons de la charité. Bon, on a parlé de la miséricorde, je suis tout à fait d'accord, et il faut en parler. Mais c'est avant tout la charité, nous regardons. Et ça aussi, vous voyez, c'est ça qui est difficile à bien saisir, pour ne pas faire dire à saint Thomas ce qu'il ne veut pas dire. La théologie scientifique, comme toujours le propre de la science, on analyse, donc on traite un sujet. En traitant un sujet, on n'exclut pas les autres, mais on traite un sujet. On traite qu'est-ce que c'est que la charité. Puis après, on traitera de la miséricorde. La miséricorde vient après, vous voyez, comme une conséquence. C'est comme une conséquence, ça jaillit de la chaîne de là. Dans notre vie, nous vivons de la charité à travers la miséricorde et dans la miséricorde. C'est évident que nous vivons constamment de miséricorde. Et entre nous, dans la charité fraternelle, on vit constamment de miséricorde. C'est sûr. Et vous ne faites pas attention si c'est un acte de miséricorde ou un acte de charité dans le concret de votre vie. Vous ne dites pas, ah tiens, aujourd'hui, c'est la miséricorde pour toi. Et puis je tourne le dos, toi tu es saint. Non, on ne fait pas ça, nous vivons de la miséricorde, mais ça n'empêche pas qu'on puisse analyser. Dans le concret de notre vie chrétienne, charité et miséricorde sont très liées. Mais nous devons analyser pour essayer de mieux comprendre ce qu'est le mystère même de la charité et ce que le mystère de la charité a d'unique. Parce que vertu théologale, qui regarde d'abord Dieu. Ça, c'est propre de la vertu théologale. Toute la vie contemplative est l'exercice des vertus théologales. Et je dirais, la vie chrétienne demande en premier lieu l'exercice des vertus théologales. Mais l'exercice des vertus théologales doit s'incarner en nous à travers les vertus. C'est l'incarnation des vertus théologales. Et la charité va s'incarner en nous à travers la miséricorde. Et ce sont les gestes de miséricorde qui vont exprimer, qui vont traduire à l'extérieur notre charité. Mais nous revenons toujours à cette charité dans ce qu'elle a de plus pur, de plus divin, de plus contemplatif, pour regarder Dieu dans son mystère d'amour. C'est suffisant comme explication pour qu'il n'y ait pas de confusion. Vous avez raison de mettre les. Vous avez raison, même si on doit, hein, ça fait partie du dialogue. On réagit selon ce qu'on a, c'est normal. C'est tout à fait normal de réagir devant telle ou telle chose qui peuvent nous faire réagir. C'est même bon de réagir. C'est pas mauvais du tout. Je fais pas ça exprès. Mais je crois que c'est ce que je vous dis représente quelque chose d'important. La preuve, c'est que vous réagissez et que c'est intéressant à essayer de comprendre comment il y a de fait un ordo caritatis, un ordre de charité. Y a-t-il d'autres questions ? Ouais, il vaut mieux, c'est toujours. Hein. On est plus sûr. Donc nous allons continuer. Si vous voulez regarder tout de suite les objections, parce qu'on ne les a pas vues. Par le prochain, y a-t-il encore des personnes que nous devons aimer plus que d'autres ? Saint Augustin dit en effet, tous les hommes doivent être aimés également. Alors, ici, omnes homines eque diligunt sunt, diligendi sunt. Donc ils doivent tous être aimés également. Mais comme il ne t'est pas possible d'être utile à tous, tu dois t'intéresser de préférence à ceux qui, à raison des circonstances de lieu, de temps, ou pour d'autres motifs, ont un partage de t'être plus étroitement unis. On comprend très bien ça. On écrira des lettres comme ça. Aimer tout le monde, excluer personne, aimer tout le monde avec la plus grande intensité possible. Mais attention au prochain. Tu as à côté de toi quelqu'un qui a besoin de toi. Dans ton immeuble, tu as un pauvre malade, un pauvre vieillard. Occupe-toi de lui, même miséricorde. C'est évident, c'est ce qu'on fait constamment, ça. Alors, voici la réponse de saint Thomas. Il peut y avoir inégalité dans l'amour de deux manières. D'abord, du côté du bien que nous souhaitons à un ami. De ce chef, nous aimons tous les hommes également par la charité. Puisque tous, nous souhaitons un même genre de bien. Mais là, l'égalité apparaît. Nous souhaitons le même bien. Nous souhaitons le même genre de bien. La béatitude éternelle, c'est ce bien-là que nous souhaitons. En second lieu, on peut parler de dilection plus ou moins grande en raison de l'intensité plus grande de l'acte d'amour. Et dans ce sens, nous ne devons pas aimer également tous les hommes. Donc c'est du côté de l'intensité, c'est sûr. Une autre réponse consiste à dire que dans notre amour à l'égard de plusieurs personnes, il peut y avoir deux sortes d'inégalités. La première consiste à aimer les uns et à ne pas aimer les autres. Cette inégalité doit s'observer dans la bienfaisance active, car il nous est impossible de faire du bien à tous. Mais elle ne doit pas exister dans la bienveillance de l'amour. La seconde inégalité consiste à aimer les uns plus que les autres. Saint Augustin, dans le texte cité, n'entend pas exclure celle-ci, mais seulement la première. Cela ressort avec évidence de ce qu'il a dit à propos de la bienveillance. Donc, c'est facile à comprendre, pas d'exclusion. Aimer tout le monde, mais on ne peut pas aimer tout le monde avec la même intensité. On ne doit pas aimer tout le monde avec la même intensité. Faisons attention quand vous aimez, quand vous priez pour tous, hein, ben, il est évident que vous ne mettez pas d'exclusion. Donc alors, à ce moment-là, vous pouvez dire « j'aime tout le monde de tout mon cœur ». Très bien. Mais à certains moments, Dieu demandera une application plus grande pour tel ou tel. Seconde objection. S'il n'y a qu'une seule et même raison d'aimer diverses personnes, on ne doit pas les aimer de façon inégale. Or, il n'y a qu'une seule raison d'aimer tous ceux qui sont notre prochain, à savoir Dieu, comme le dit saint Augustin. Nous devons donc aimer également tous ceux qui sont en cette condition. Alors, réponse. Tous ceux qui sont notre prochain ne sont point dans le même rapport avec Dieu.
mais il en est qui sont plus proches de lui parce qu'ils sont meilleurs. Cela, on doit les aimer de charité plus que d'autres qui sont moins proches de Dieu.
Oui, dans la mesure où nous savons, parce qu'on ne sait jamais. Quel est celui parmi vous ou celle parmi vous qui est la plus aimée de Dieu? Qu'elle lève la main. Hein, oui. Alors, je l'aimerai plus que tous les autres. Voyez. On ne sait jamais. C'est en ce sens-là que c'est là où c'est toujours l'action de l'Esprit Saint. Au fond, c'est l'Esprit Saint qui nous donne cette espèce de sens de la sainteté de tel ou tel que nous avons approché. C'est l'Esprit Saint qui nous donne ça. Et l'Esprit Saint peut le donner à l'un et pas le donner à l'autre du tout. C'est ça qui est très curieux parmi les instruments de Dieu et parmi le prochain. C'est, ça reste très mystérieux, ça. Il y a certaines personnes, évidemment, qu'on a approchées. Par exemple, si vous voulez, quelqu'un comme Marthe Robin, je crois que c'était assez visible, qu'il y avait des signes de sainteté très... Et quand Marthe pouvait toucher par telle ou telle parole notre cœur, on comprenait que l'Esprit Saint mettait un lien. Et c'est vrai, personnellement, moi je reconnais que la première fois que j'ai vu Marthe Robin, ça m'a fait comprendre en profondeur le corps mystique. C'était le jaillissement immédiatement. Dès que Dieu pérait,